Rappelons d'abord, avant de lire les textes, que la parole de Dieu est bonne. Que toute parole qui vient du Seigneur est bonne. Quand elle nous réconforte, quand elle nous console, mais aussi quand elle nous reprend, quand elle nous montre qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ont besoin d'être réformées, d'être rectifiées. La parole de Dieu est bonne. Alléluia. Alors nous allons lire les trois textes que j'ai retenus. Le premier est un petit peu long, mais je l'ai même raccourci par rapport à ce que je pensais lire, mais je pense que c'est important de tout lire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 53, Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Je m'arrête juste pour préciser qu'il n'est pas question de cannibalisme, mais ce sont des notions spirituelles. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est l'œuvre de Jésus à la croix que nous nous sommes rappelés en prenant la Sainte Cène. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 11, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Le deuxième texte, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 29. Pierre et les apôtres répondirent à ceux qui voulaient leur interdire de prêcher l'Évangile, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. » Et puis un peu plus loin, au chapitre 7, à partir du verset 48, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait ces choses, toutes ces choses? Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. » Ben, il n'y avait pas de main morte, c'est vrai. Hein « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Amen. » J'espère que je vais ressortir vivant. Hein. Alors, quelles sont les paroles qui ont dérangé ceux qui les ont reçues? D'abord, Jésus parle de venir à lui en étant attiré par le Père. Le problème, c'est que ses auditeurs, les têtes bien pensantes du peuple d'Israël, ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Vous êtes ici, Donc vous croyez que Jésus est le Messie et qu'il est votre Messie, l'envoyé de Dieu pour vous et qu'il est votre Sauveur. Nous le croyons. Mais quand la parole de Dieu est différente de nos conceptions, qu'est-ce que nous faisons ? Différente peut-être de ce qu'on nous a enseigné autrefois, différente de ce qu'on peut penser, différente de notre logique. C'est bien d'avoir une logique, hein. Le Seigneur nous a créés avec un cerveau, il faut s'en servir, mais il arrive que la logique de Dieu est différente de la nôtre, et il faut l'accepter. Amen. Vous vous rappelez ce que le Seigneur disait à Saul de Tarse, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Il croyait qu'il était dans la logique de Dieu, il croyait même servir Dieu en persécutant l'Église de Jésus-Christ. Et il a fallu que le Seigneur l'arrête sur son chemin et se révèle à lui. Amen. Alors, j'ai noté les choses comme ça, c'est peut-être un mot qui est fort, mais Jésus est le maître et notre maître. Il n'y a pas beaucoup d'amen ici. Il est notre maître et nous n'avons pas à discuter ses ordres. Parce que ses ordres, ils sont judicieux. Ces ordres, si nous les mettons en pratique, ils nous mènent vers la vie. Ils nous mènent vers le meilleur. Ils nous mènent vers la liberté. Alléluia. Je ne sais pas s'il m'est arrivé de vous parler, avant d'être pasteur, j'ai fait des études d'anglais. Il y a un poète anglais on le voit très bien dans son œuvre, il s'est converti. Il s'est tourné vers le Seigneur. Avant, ses poèmes avaient une certaine connotation, mais après, ils en ont une autre. Et il dit, « Fais de moi ton esclave afin que je sois libre. » C'est beau, ça. C'est pas logique. Ça défie notre vocabulaire et l'expérience et ce qu'on peut penser. Mais c'est vrai que dans la mesure où nous acceptons Jésus comme notre maître, eh bien, nous sommes vainqueurs. Je dis souvent que pour être vainqueur, il faut se laisser vaincre par le Seigneur. Parce que c'est comme cela que nous connaissons la vraie liberté. Et encore une fois, même si ça défie la logique humaine, on peut en faire l'expérience. Amen. Croyez-en les centaines de millions d'êtres humains qui ont fait cette expérience. Amen. Et si nous n'acceptons pas, si nous discutons les commandements du Seigneur, ces commandements qui, parce qu'ils ont été accomplis par Jésus à la croix, deviennent pour nous de magnifiques promesses. Je cite souvent un exemple, donc vous me l'avez peut-être déjà entendu citer, mais c'est plus « tu ne mentiras pas, mais je te donne le pouvoir de vivre dans la vérité ». Et oui, tu ne mentiras pas, alors on peut être toujours sur le qui-vive. Mais j'arrive pas à m'en empêcher, c'est dans ma nature. Mais si j'accepte la volonté de Dieu pour moi, alors le Seigneur me remplit de lui, me remplit de son esprit, et il me donne le pouvoir de vivre dans la vérité. Alléluia. Ce qui fait que ça m'est plus possible de mentir. J'espère que c'est votre cas tout ça. Amen. Oui, parce que la vérité est devenue une partie intégrante de ma nature, parce que c'est la nature de Christ qui est en moi. Alléluia. Si nous discutons ce que le Seigneur nous dit, bien ça nous conduit à la mort. Vous vous rappelez Adam et Ève ? Ils n'avaient qu'une parole à respecter de la part du Seigneur. Qu'une parole. Et quand on réfléchit bien, le Seigneur voulait leur éviter de connaître le mal. Il connaissait le bien, il connaissait ce qui était parfait, et cet arbre qui est là, dans le jardin, l'arbre de la connaissance, c'est pas un pommier, hein. C'est même pas un arbre, je pense, un arbre fruitier qu'on connaît, mais c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors j'en entends certains qui me disent, oui, mais alors pourquoi le Seigneur l'a mis là ? S'il ne l'avait pas mis, il n'y aurait pas eu la tentation d'en manger le fruit. Eh bien, là encore, quand on lit la parole de Dieu et qu'on la prend dans son ensemble, on se rend compte que c'est aussi par amour que Dieu a mis cela, cet arbre-là. Parce que Dieu aimait Adam et Ève comme il nous aime, mais il ne voulait pas qu'il soit obligé de l'aimer, obligé de croire en lui, obligé de lui obéir, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Le véritable amour laisse le choix. Il laisse le choix à l'autre. On prend souvent cette image. Si un garçon aime une fille, par exemple, ou une fille un garçon, il ne va pas prendre l'autre par les épaules. Alors tu vas m'aimer, oui ou non? Oui, ça vous fait rire, mais ça nous parle de la liberté que le Seigneur nous donne. Et ça, c'est merveilleux. Il n'est pas question de sexe, il n'est pas question de gourou, il n'est pas question d'obliger à changer de religion ou autre. Il est question de recevoir la vie de Dieu, qui est la seule valable, qui est la seule qui durera pour l'éternité. Amen. Et Adam et Ève, eh ben, ils ont préféré écouter la voix du serpent. Ben, ça, oui, bien sûr, il y avait peut-être un peu de curiosité, il y avait peut-être un peu de perplexité, il y avait peut-être un peu, en tout cas, l'adversaire, il est toujours le même, hein. Il agit toujours de la même manière, il vient insidieusement nous dire, mais Dieu a-t-il réellement dit, est-ce que tu as bien compris? Et puis il y a tellement d'interprétations, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. Si nous aimons le Seigneur nous préservera du mal. Si nous aimons le Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le Seigneur nous le montrera. Il ne nous laissera pas nous égarer bien longtemps. Il viendra sur notre route et par son Saint-Esprit, il parlera à nos cœurs. Amen. Manger la chair et boire le sang de Jésus pour avoir la vie. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas question de cannibalisme, mais il est question de venir à la croix. Le message de la croix, il est toujours actuel. Le message de la croix, il est toujours valable. Le message de la croix, il est le seul par lequel nous pouvons avoir la vie, par lequel nous pouvons être réconciliés avec Dieu, par lequel nous pouvons être pardonnés, purifiés, lavés de nos péchés. Alléluia. Venir à la croix. Alors venir à la croix, de la bonne manière, avec la bonne mentalité, avec les bonnes intentions, parce que bon, il y en a qui n'acceptent pas la croix parce qu'ils se disent mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et oui, mais la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et si la croix était dressée, normalement c'était pour nous, c'était à cause de nos péchés, mais Jésus s'est chargé de nos péchés. Amen. Et venir à la croix, ça veut aussi dire accepter de crucifier ma chair. C'est pas ce que j'accepte d'emblée, n'est-ce pas? Oh là, mais il va falloir que je renonce à ceci, il va falloir que je renonce. Il y a une image que j'aime bien. Comment est-ce que vous pouvez faire lâcher un os à un chien qui s'y accroche? Si vous essayez de lui enlever, vous allez vous faire mordre. Mais si à côté vous lui mettez un beefsteak, je pense que l'os, il le laissera. Et le Seigneur a tellement mieux à nous proposer que tout ce à quoi on s'accroche, que tout ce qui fait partie de notre vie humaine, tout ce qui fait partie de notre humanité, tout ce que la parole de Dieu appelle le vieil homme. Il y a une dame qui s'était convertie, il faut faire mourir le vieil homme. Elle pensait qu'il fallait tuer son mari, hein, mais c'était pas ça. C'est authentique ce que je vous dis, hein. Mais c'est surtout pas ça. Non, mais ce qui a régné sur moi, ce qui m'a rendu esclave, bien le Seigneur a remporté la victoire sur tout cela à la croix. Alléluia. Alors je veux accepter de crucifier ma chair. Si je vis, dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et Seigneur, je veux rester crucifié avec toi. C'est vrai que ce qui fait souvent obstacle à tout cela, C'est notre orgueil. Alors, ne me dites pas que vous n'êtes pas orgueilleux. Parce que nous en avons tous, je le dis comme ça vient, nous en avons tous une certaine couche d'orgueil. Et oui, et c'est pour cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour avoir assez d'humilité, pour accepter de reconnaître cela et de demander au Seigneur qu'il me change. Amen. Je voulais peut-être aussi citer, parce que c'est tellement, comment dire, tellement vrai et tellement bien dit. Il y a un prédicateur un jour qui disait « L'humilité, c'est cette vertu bizarre qui fait que dès qu'on en parle, on la perd. » Ah oui. Plus humble que moi, vous ne trouverez pas. J'en ai bien une autre qui... Avant, j'étais orgueilleux, mais maintenant, je suis parfait. Alors, il n'y a plus de soucis. Ah, je vais vous faire sourire un petit peu. Mais ce sont des choses qui sont tellement destructrices, souvent, pour nous et pour les autres, parce que ça amène le jugement, ça amène... on se met en avant, et puis on méprise les autres. Non, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Il y a une phrase biblique que j'aime bien. Permets, Seigneur, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette expression, je n'ai plus la référence exacte. Permets que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Et quand je lis ce texte, j'ai l'impression que l'orgueil, il met son pied en avant pour me faire un croc en jambe et pour que je chute. Et ça, alors, Seigneur, aide-moi, aide-nous. Vous êtes d'accord de dire Seigneur, aide-moi, parce que ben, je dois reconnaître que j'en ai besoin. Alléluia. Alors, les paroles que Jésus donne, elles sont fortes parce que Jésus nous connaît. Il sait que nous avons besoin d'être interpellé par sa parole, justement. Et c'est vital, cela. Contrairement à ce dont on parlait tout à l'heure, qui conduit à la mort, c'est vital. Le Seigneur dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. C'est-à-dire, celui qui veut conserver quelque chose de cette vie d'en bas, il finit par tout perdre. Et oui, on peut lire dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, il y a tellement d'exemples. Et puis nous pouvons regarder autour de nous, et puis dans notre propre vie, si je veux conserver quelque chose de cette vie d'en bas, je vais finir par tout perdre. Mais si je donne tout au Seigneur, tout n'est pas mauvais en soi. Si je donne tout au Seigneur, il va me le redonner, bonifié, purifié, sanctifié, et ça pourra servir pour sa gloire. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je veux tout te donner, Seigneur. On le chante hein, parfois. Je te donne tout. Je te donne tout. Oui, mais là, est-ce que tu m'as donné cette partie de ta vie? Oui, mais là, est-ce que tu n'as pas repris quelque chose? Oui, mais là, est-ce que tu n'as pas laissé de nouveau la porte ouverte à ce que tu avais vomi, à ce que tu avais rejeté, parce que tu avais compris ce que le Seigneur voulait pour toi? Alors ses auditeurs, ils disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous vous rappelez, hein, dans l'Apocalypse, plusieurs fois, il est écrit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais on peut entendre, mais pas écouter. On peut entendre, oui j'ai compris, oui je sais, mais je ne veux pas l'accepter. Je ne veux pas le mettre en pratique, je ne veux pas l'appliquer à ma vie. C'est trop dur pour moi, comme disaient les disciples, c'est trop dur pour ce que je suis en train de vivre. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Seigneur, je veux être à l'écoute de ta parole. Comme Marie qui se tenait au pied de Jésus, qui avait choisi la bonne part. Seigneur, je veux écouter. Écouter, c'est-à-dire recevoir, c'est-à-dire l'appliquer à ma vie, c'est-à-dire... Par ta grâce, Seigneur, le mettre en pratique. Alléluia. Et le Seigneur dit ici quelque chose d'important aussi. Il dit, la chair ne sert de rien. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, On a une intelligence que le Seigneur nous a donnée et il faut que nous nous en servions. Mais il y a des choses, notre chair ne peut pas comprendre. Notre chair ne peut pas accepter. La chair ne sert de rien parce que mes paroles, on l'a lu, hein, dit Jésus, sont esprit et vie. Donc c'est spirituellement qu'on en juge. Et vous savez, quand on dit « Seigneur, enlève le voile pour qu'ils comprennent, enlève. » Mais il est écrit dans la parole de Dieu, « Quand le cœur se convertit, le voile est ôté. » Donc on prie, « Seigneur, permet que son cœur soit touché. » Et alors, le voile est ôté. Et alors, on comprend. Et peut-être que mon cœur, dans certains domaines, a besoin de se convertir pour que je comprenne la volonté de Dieu, que je comprenne la parole de Dieu, que je comprenne pourquoi je me suis mis dans telle ou telle situation et que je demande à Dieu son secours pour m'aider à m'en sortir. Alléluia. Mes paroles sont esprit et vie. Alors, ben oui, il y en a, et ils ont dit c'est trop dur, on s'en va. Personne n'est parti encore, donc ça doit aller. Hein. Mais vous avez entendu ce que répond Jésus ? Il se tourne vers les onze, il dit « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Nous, si on voit quelqu'un partir, on va le rattraper. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a fait mal ? Qu'est-ce qui t'a blessé ? Tout ça. Jésus lui dit « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Encore une fois, cela marque la liberté que le Seigneur respecte de notre part. Et c'est bon de vivre dans la liberté. Ça fait partie de la devise de la France. Hein. Liberté. Ah oui, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que la liberté ? Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Eh bien Seigneur, la liberté, c'est de faire ce que tu veux toi. Amen. Il y a quelques années de cela, alors je ne sais plus laquelle, mais il y a une banque qui disait le pouvoir de dire oui. Et moi j'ai pensé, mais Seigneur, en toi, j'ai le pouvoir de dire non. Il y en a, ils disent oui à tout. Et puis, ils ne savent plus où ils en sont. Mais Seigneur, j'ai le pouvoir de dire non. Alléluia. Alors, une autre parole, c'est il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, il faut quand même préciser que Dieu nous invite à être soumis aux autorités. À partir du moment où les autorités ne nous demandent pas de faire le contraire de la volonté de Dieu. Donc il faut être soumis d'abord à Dieu, mais il faudrait respecter aussi les autorités. Hein, si on ne respecte pas le code de la route et qu'on prenne un procès, ben, on n'aura pas, comment dire, à accuser les autres, ni les règles. Mais Seigneur, je veux t'obéir. D'abord, t'obéir. T'obéir à toi plutôt qu'à moi-même. Me soumettre à ta pensée plutôt qu'à la mienne. Alléluia. Et j'ai noté, ça c'est important aussi. De toute façon, c'est Dieu qui aura le dernier mot. De toute façon, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Vous avez tué Jésus, dit le Seigneur, disent les disciples dans ce texte, vous avez tué Jésus, mais Dieu l'a ressuscité et l'a élevé. Alléluia. C'est bien, on s'en est débarrassé. Même le diable. Hein? Mais le diable, il n'a pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. C'est Dieu qui change le mal en bien. C'est Dieu qui se sert même de mes erreurs pour me conduire vers ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste. Amen. Il aura de toute façon le dernier mot. Si nous nous opposons à Dieu, nous verrons peut-être et sans doute même nos plans échouer, mais Dieu se glorifiera quand même. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Et puis la parole de Dieu me montre aussi que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Dieu bénit ceux qui lui obéissent. C'est aussi une image que je prends souvent, donc j'ai dû la prendre ici à Saint-Agne. Mais si le terrain qui est à ma droite, donc à votre gauche, est sec, et s'il n'y pleut pas, et que celui qui est de l'autre côté reçoive la pluie, si je veux être mouillé, où est-ce qu'il faut que je me mette? Là, hein, du côté où il pleut. Donc avec le Seigneur, c'est la même chose. Il ne nous maudit pas, mais si je veux sa bénédiction, il faut que je me place sur le terrain où il a la liberté de me bénir. Amen. Donc montre-moi, Seigneur, quel est le terrain sur lequel je peux être béni. Et puis en plus, même si je suis sur ce terrain, si j'ai le parapluie, je ne serai jamais mouillé. Donc il y a peut-être des parapluies qu'il nous faut fermer. On parlait de l'orgueil tout à l'heure. On peut parler de, je sais pas, de l'incrédulité. On peut parler de la contestation. On peut parler de plein de choses. Mais Seigneur, aide-moi. Je veux être béni. Amen. Vous aussi, hein? Eh bien oui, parce que sans la bénédiction de Dieu, et vous savez qu'il est écrit que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui nous enrichit, et que le Seigneur ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais j'aime aussi comment quelqu'un l'avait interprété. Bon, il n'y a pas d'interprétation particulière, mais il faut reconnaître que parfois on se sent béni, et puis que derrière, il arrive quelque chose de difficile à vivre. Ça arrive. C'est pas automatique, mais ça arrive. Et quelqu'un disait, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et même le chagrin ne pourra pas me l'enlever. J'ai trouvé que c'était beau. C'est pour ça que souvent je le partage. Même le chagrin ne pourra pas me l'enlever. Même s'il y a une contrariété derrière, même s'il y a un malheur derrière, ça n'empêche pas que si le Seigneur m'a béni, cette bénédiction, je la garde, je la conserve. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas prétendre que nous vivons selon l'Esprit si nous faisons le contraire de ce que Dieu dit. Parce que le même Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques, c'est celui que le Seigneur nous a donné et il ne peut pas être en contradiction avec la parole de Dieu. Et vous avez vu, hein, dans les deux textes des Actes des Apôtres, il est dit qu'ils étaient furieux et voulaient les faire mourir. Ils étaient furieux. Ça a remué leur cœur. Alors c'est pour ça que je dis les paroles qui dérangent. Qu'est-ce que je fais quand la parole de Dieu vient me déranger? Est-ce que je suis furieux? Est-ce que je dis, mais Seigneur, quand même, tu vas fort quand même, c'est trop dur quand même. Est-ce que je dis, Seigneur, ben, pardonne-moi, je n'avais pas compris. Pardonne-moi parce que j'ai été résisté. Pardonne-moi parce que j'ai encore besoin de ta grâce et d'être transformé. Amen. Un dernier point avec certaines pensées. Quand Dieu nous dit la vérité sur nous-mêmes, on peut se boucher les oreilles. Hein. Ça me fait penser à une expérience de quelqu'un qui venait écouter sur tous les champs. Je crois que c'était sous un chapiteau où les tziganes prêchaient l'évangile. Et il aimait beaucoup les chants, surtout les chants de tziganes. Donc il venait plusieurs soirs de suite dans une mission. Il est venu et il se plaisait à écouter les chants. Mais au moment de la prédication, il se bouchait les oreilles. Imaginez le prédicateur qui voyait ce manège, hein. Mais comment la parole de Dieu va pouvoir pénétrer son cœur? Il se bouche les oreilles. Alors, ce prédicateur, il priait le Seigneur tout en prêchant. Seigneur, aide-le, Seigneur. Permets qu'il entende ta parole. Et je ne sais plus au bout de combien de soirs, tout d'un coup, il y a une mouche qui est venue se poser sur son nez. À cet homme. Alors, il a secoué la tête. Puis à un moment donné, il s'est dit, bon, je vais vite chasser la mouche et je remettrai mon doigt sur l'oreille. Et quand il a enlevé son doigt, le prédicateur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais ça l'a interpellé, cet homme. Il a enlevé l'autre doigt et puis s'est tourné vers le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a tellement de magnifiques moyens pour... je ne pense pas vous les avoir donnés, mais c'est des témoignages bouleversants qui nous permettent de croire que même ceux dont on pense qu'ils ne se laisseront jamais toucher par le Seigneur a des moyens pour les toucher. Amen. Alléluia. Je connais un pasteur qui fait partie de nos assemblées. Il s'est converti en faisant un cambriolage. Il n'était pas tout seul, il était avec un acolyte. Et puis, il a trouvé dans la maison un Nouveau Testament. Et puis, il a commencé à regarder pour voir ce qu'il pourrait en tirer. Et puis, il a été interpellé par le texte. Je crois que c'était Jean 3 qui lisait. Et son collègue, il dit, alors, tu viens? Il dit, attends, laisse-moi un petit peu. Et il s'est converti là en lisant l'Évangile, dans la maison qu'il était en train de cambrioler. C'est magnifique, hein? Alléluia! Et puis un autre pasteur aussi, lui, l'Évangile ne l'intéressait pas, il regardait surtout les jolies filles, tout ça. Et puis il avait une tante et un oncle qui tenaient une boulangerie-pâtisserie en face d'une église évangélique. Et puis donc un jour, il venait les voir, il était dans le bus, puis il y avait une très jolie fille. Et puis elle est descendue, là où il descendait aussi, et puis il l'a suivie. Et puis elle est entrée dans l'église, et puis il l'a suivie, et la parole de Dieu l'a touchée. Alléluia. Et aujourd'hui, il prêche l'Évangile. Il ne s'est pas marié avec la fille, hein, je précise. Mais il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Et puis tant d'autres témoignages. Et même dans les contextes pour lesquels on prie aujourd'hui, comme les contextes de guerre ou autres, en Iran, il y a des dizaines de milliers de conversions. Ils n'en parlent pas à la télé, hein? Ah oui? Mais le Seigneur fait son œuvre. Amen. Et même là où c'est le plus difficile, le Seigneur fait son œuvre. Alors quand Dieu nous dit la vérité sur nous-mêmes, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Il y en a qui ne supportent pas la vie de l'Esprit. Il y en a même qui pensent que c'est diabolique. Alors c'est vrai qu'il y a des imitations. Mais s'il y a des imitations, c'est parce qu'il y a le vrai aussi. Donc cherchons. Et ne vous découragez pas, mes bien-aimés. Si vous avez demandé au Seigneur qu'il vous baptise dans le Saint-Esprit et que ce n'est pas encore le cas, alléluia. Et vous qui l'êtes, mettez-vous à la disposition du Seigneur et du Saint-Esprit pour pouvoir exercer les dons spirituels. Amen. La Bible nous apprend aussi que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Eh oui, il n'habite pas dans... Même Salomon, quand il a bâti le temple, il dit, mais... Qui je suis, moi? Qu'est-ce que c'est que cette maison? Dieu habiterait-il parmi les hommes? Et quand Dieu venait dans le temple, sa présence était telle que personne ne pouvait y rester, même pas les sacrificateurs. Eh oui, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc Dieu n'habite pas dans ce que je conçois d'une manière humaine. Aide-moi, Seigneur, à concevoir les choses avec ta lumière, avec ton Saint-Esprit, avec ta sagesse, avec, comme je disais tout à l'heure, ta logique à moi. Dieu n'est pas lié par ce que font les hommes. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais Dieu ne se plie pas à notre volonté, ne se plie pas à nos œuvres. Dieu n'entre pas dans nos combines. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais c'est vrai, Seigneur, tu n'entres pas dans nos combines. Nous, on peut, comme on dit, louvoyer, on peut essayer de prendre des chemins de traverse, on peut... Mais toi, tu es droit, tu es clair, ta parole est la vérité. Et je ne peux pas déroger à ta parole, ce n'est pas possible. J'ai aussi noté, il ne se laisse pas impressionner par nos œuvres humaines. Il y a des gens, il y a des hommes, des femmes qui font des choses extraordinaires. Il faut le reconnaître. Même qui nous impressionnent. C'est, mais moi, je ne serais pas capable de faire ça. Mais Dieu, sans mépriser, de bonnes choses que les hommes font, il n'entre pas, il ne se laisse pas impressionner par nos œuvres humaines. Ah, on pourrait dire, ah ben là, là j'ai bien réussi. Là, j'ai été au top, hein. J'ai été dans le coup, Mais le Seigneur ne se laisse pas impressionner. Non. Seigneur, si j'ai gagné quelques victoires, si j'ai réussi quelques œuvres, c'est par ta grâce. Et que l'honneur t'en revienne, et que la gloire t'en revienne. Alléluia. Il n'est pas pris à l'engrenage de nos caprices. Hein, il y a des choses, quand on y réfléchit, on se dit, ah, oui, mais c'est un caprice de ta part, ça. T'en as pas besoin. Ou c'est pas ça qu'il te faut. Non, il ne se laisse pas prendre à l'engrenage de nos caprices. Et puis, il dit à ses contemporains, vous avez la loi et vous ne l'avez point gardée. Pourtant, il se vantait d'avoir la loi. Et la loi, elle est bonne. Mais elle est là pour nous montrer qu'on ne peut pas l'accomplir. On pourrait penser, si on raisonne humainement, mais c'est un peu tordu comme démarche ça. Tu nous as donné la loi pour nous montrer qu'on ne peut pas l'accomplir. Ben oui, mais pour nous montrer que justement, on avait besoin de Jésus, le parfait, qui lui a parfaitement accompli la loi, et qui fait que moi, je peux être sauvé. Alléluia. Avant, j'étais pécheur, perdu. Et maintenant, je suis pécheur sauvé par grâce. Eh oui, ça, c'est toujours la grâce de Dieu. Alléluia. Ils étaient furieux, ils grinçaient des dents. Oh. J'ai pas entendu des dents grincer, donc ça va. Alors, en résumé, laissons-nous déranger par la parole de Dieu. Laissons-nous déranger par la parole de Dieu. Un jour, je parlais de ces choses à Montauban, et en sortant du culte, il y a un frère qui me dit, alors, ah, bon, j'ai compris ce qu'il voulait dire, mais il dit, « Oh, tu sais, tu ne m'as pas dérangé. Hein. » Alors, je lui dis, bah, « C'est dommage. » Il voulait dire qu'il ne m'en voulait pas, quoi, c'est ça. Et oui, laissons-nous déranger par la parole du Seigneur. C'est vital pour nous. C'est vital pour moi. Ayons confiance en Dieu. Il nous aime, c'est une réalité. Non seulement on le chante, non seulement on le dit, non seulement la parole de Dieu le dit, mais nous pouvons en faire l'expérience d'une manière profonde, d'une manière qui nous bouleverse. Il nous aime et il veut notre bien. Quand il nous résiste, le Seigneur, c'est pas pour nous ennuyer, c'est pas pour nous contrarier, c'est parce qu'il veut notre bien et il sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Et puis, rappelons-nous aussi, on vient de le dire, que c'est sa volonté qui triomphera toujours en dernier recours. Alléluia. Le Seigneur se lèvera le dernier sur la terre. Eh oui. Amen. Il en a passé, Job, hein, des choses difficiles. Mais en définitive, le Seigneur l'a rétabli. Et en plus, il l'avait découvert tel qu'il est. Le Seigneur, lui qui l'aimait sans le connaître vraiment. Et je sais que personnellement, je prie souvent pour certains qui sont dans une religion et qui aiment Dieu sans le connaître. Seigneur, révèle-toi à eux. Seigneur, fais-leur connaître ta grâce. Et puis aide-moi à être un canal de bénédiction aussi. Amen. Amen. Ô Seigneur, une fois de plus, nous pouvons dire qui est suffisant pour ces choses. Une fois de plus, nous ne pouvons que nous tourner vers toi et te demander d'avoir miséricorde envers nous, Seigneur. De nous pardonner toutes les choses que nous n'avons pas comprises, toutes les choses que nous avons faites alors que nous avions peut-être très bien compris. Mais Seigneur, nous te remercions de nous avoir gardés et en vie spirituellement, et de nous conduire encore vers le meilleur. Bénis mes frères, mes sœurs, bénis-nous, parce que personne n'est au-dessus des autres, Seigneur. Merci Jésus de sauver encore beaucoup d'âmes, et merci de te glorifier dans cette église, dans cette ville, dans cette région et dans notre pays, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen.